Vovox présente la libre antenne de l'assurance. Dans notre monde chahuté, il est nécessaire de réfléchir et d'évoquer librement, concrètement, l'assurance du monde d'après. Innovation, transformation, éventuelle disruption du secteur de l'assurance sont au programme. Retrouvez Jean-Luc Gambet et ses invités.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes connectés à la libre antenne, un format de partage, un format convivial, une discussion franche. Nous allons passer 25 minutes ensemble. Aujourd'hui, notre discussion portera sur la technologie, en particulier celle des back-office. Back-office probablement au cœur de la transformation de la relation client. En tout cas, David Farcy de Périclès Group et Christophe Emprunt de Pack Solutions nous en parleront. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Nous aurons aussi le plaisir pour conduire cet échange d'avoir Jean-Charles Némy. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour à tous.
Merci messieurs d'être avec nous. Alors une première question de contexte, ensuite Jean-Charles Némy prendra le relais pour conduire ces échanges. Est-ce que les back-office sont au cœur de la transformation de la relation client? Qu'en pensez-vous David, Christophe peut-être dans un premier temps?
Oui, je peux effectivement donner mon avis là-dessus. Au cœur, certainement un maillon de cette chaîne de la relation client indiscutablement. Et on aura l'occasion sans doute d'y revenir, c'est tout le rapprochement du back-office, entre le back-office et le client, qui sont les enjeux effectivement d'aujourd'hui et demain.
David, votre point de vue?
Oui, tout à fait. Enfin, je crois qu'il y a un contexte en plus réglementaire et qui impose pas mal de contraintes au niveau des back-office qui se ressentent directement sur la relation client. Donc, il y a de gros travaux qui ont été faits, on va en parler au travers de l'étude qu'on a menée, mais l'enjeu effectivement d'un back-office performant est essentiel dans la relation client.
Merci Jean-Luc, tu souhaites poser une autre question?
Non, je vous laisse ensemble. Je suis toujours là, mais je vous laisse ensemble.
D'accord, merci. Donc Christophe, David, effectivement, merci de votre participation. Alors je rebondis sur ce que vient de dire David pour lui poser tout de suite une question. David, vous parliez effectivement de transformation, l'intérêt de la transformation et l'intérêt pour le client. Depuis plusieurs années, vous menez une enquête, une étude, un observatoire, je ne sais pas exactement quel est le terme, mais peu importe, sur les back-office pour les conseillers en gestion de patrimoine, c'est bien cela?
Oui, c'est exactement cela. En fait, c'est une étude qui est réalisée auprès de 1700 professionnels du patrimoine, qui sont tous inscrits à l'ORIAS, donc bien entendu distributeurs de produits d'assurance. Et cette étude a pour objet d'avoir un retour de ces professionnels, justement, sur le jugement de la qualité des back-office. Et c'est intéressant de passer par les professionnels et pas nécessairement directement par les clients parce qu'ils ont un avis éclairé sur les éléments importants de gestion et les attendus de leurs clients. Donc voilà, c'est une étude qu'on mène déjà depuis de nombreuses années. Et je dois dire qu'effectivement, elle est assez révélatrice de l'évolution et des efforts fournis par les plateformes. Juste en quelques mots, puis après on pourra revenir sur différentes thématiques. C'est ce qu'on a constaté en 2020, assez paradoxalement, avec un contexte Covid particulier, avec un contexte réglementaire qui se renforce, c'est qu'on a eu depuis longtemps une amélioration de la qualité de gestion des back-office vu des professionnels du patrimoine. Donc c'était une bonne année 2020 pour les back-office assurants.
C'était quand vous dites une amélioration, c'est-à-dire que c'est la crise en fait qui a. Alors c'est une question que je vous aurais posée.
C'est possible. C'est possible. Je pense que c'est intéressant parce que on a fait un petit focus justement sur l'impact de la crise et d'une façon globale, on peut dire que les professionnels ont trouvé que les back-office avaient été assez réactifs. Ils ont mis en place rapidement des éléments de formation pour accompagner les professionnels dans les traitements particuliers. Ils ont été beaucoup plus souples et adaptables sur les process de gestion. Donc il y a eu un vrai effort de fourni qui a été perçu positivement par les professionnels.
D'accord. Bon, effectivement, vous avez des améliorations dues à une période difficile. Alors, je continue sur. Je vais d'abord me reposer la question à Christophe. Est-ce que Christophe, vous sentez le même Alors vous gérez les back-office. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a eu une amélioration, je ne sais pas, mais des changements, des évolutions avec cette crise?
Alors effectivement, je vais forcément être subjectif, étant moi-même. Oui. La représentation de plusieurs back-office à travers la gestion déléguée que nous avons de portefeuille. Au-delà de ça, et je rejoins David, il y a eu, et là pour le coup, sans subjectivité, une belle résilience des back-office au sens général dans les compagnies d'assurance et sur les plateformes de gestion dans un contexte de crise sanitaire. Ça veut d'abord dire qu'il y a eu une continuité de service, et ça je pense que c'est à souligner, et ça, cette continuité de service, elle ne s'est pas décrétée le 16 mars au premier confinement. Ça veut dire déjà que depuis plusieurs années, ont été engagés des investissements importants de la part des back-office en matière de continuité d'activité, de reprise d'activité. Et pour l'anecdote, une fonction dont on aurait extrêmement mal imaginé, il n'y a que 5 ou 10 ans, qu'elle soit totalement en télétravail, a démontré en quelques heures avec le premier confinement qu'elle était tout à fait compatible avec du travail à distance, même un peu contraint, des équipes de gestion. Et je pense que c'est aussi cet élément-là que les professionnels ont pu apprécier dans le contexte de crise que nous avons vécu, c'est cette capacité finalement des plateformes de gestion à s'éparpiller façon puzzle, pour ne pas paraphraser un auteur que nous aimons tous, éparpiller les équipes qui, dans un contexte, encore une fois, de travail à distance contraint, et je préfère ce terme-là à celui de télétravail, au moins durant le premier confinement, ont pu effectivement répondre présent auprès des professionnels, auprès des clients, pour assurer les opérations de gestion essentielles de leur contrat. Et ça, ça a été effectivement, je pense, j'espère pas une surprise de la part de professionnels, mais au moins ont-ils reconnu qu'effectivement, il y avait cette parfaite continuité de service.
D'accord. David, c'est quelque chose que vous ressentez. Et aussi, une question, pour pas forcément rentrer dans le détail de l'étude, mais est-ce qu'il y a au niveau de la qualité des écarts importants ?
Oui, il y a toujours des écarts. En fait, ce qu'il faut toujours analyser les efforts qui sont fournis par les back-office en matière de digitalisation, de robotisation. Ce sont toujours des efforts qui sont fournis à un instant donné, mais dont les résultats se font voir ultérieurement. Et généralement même, il y a une phase un peu de, entre guillemets, j'allais dire, dégradation, puisqu'on est sur des phases où on doit migrer des applicatifs, on doit migrer des services, on doit faire la transformation. Donc, il y a une sorte de courbe qui fait que la qualité peut pendant un certain temps être moins bonne jusqu'à effectivement retrouver un niveau, voire une amélioration assez forte de cette qualité. Donc il y a vraiment des efforts qui ont été fournis et ça a été vraiment ressenti dans l'étude. Les points qui restent encore et qui sont souvent mis en avant par les professionnels, c'est souvent la rapidité des traitements. Ça reste un élément complexe puisqu'on est l'assurance vie a beaucoup évolué ces dernières années. On est passé sur des contrats qui maintenant sont collés au marché, que la nécessité de passer des opérations quasiment en temps réel, et que là encore, il y a beaucoup de progrès à faire pour être en mesure d'assurer une rapidité de traitement qui garantisse l'exécution des opérations dans les délais requis.
Et là, il y a des, donc, quand je parlais d'écart, mais encore une fois, sans citer de nom, mais est-ce que, on a eu des retours de conseillers en gestion de patrimoine qui disaient, il y a franchement maintenant des différences entre les acteurs.
Sans citer de nom, mais globalement, ils sont tous améliorés. Mais je reviens sur ce point, c'est vraiment une question de cycle. Hein. Chaque acteur effectue des investissements et voit ses résultats atterrir au bout d'un an, un an et demi. Et donc, on a des écarts effectivement qui ressortent et ça fluctue. Après, il y a quelques acteurs majeurs qui sont déjà depuis de nombreuses années en tête du classement. Mais je pense qu'ils ont réussi à allier ces évolutions technologiques avec conserver une relation de proximité avec les conseillers et les clients. Et je pense que ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire, effectivement, c'est le couple digitalisation et les services de proximité qui marche le mieux et qui satisfait le plus les professionnels et les clients.
D'accord. Alors justement, vous avez évoqué, vous avez parlé de digitalisation. Là, je vais revoir Christophe. Christophe, les nouveaux enjeux pour les back-office en assurance vie, enfin en assurance de personnes plus généralement aujourd'hui. Vous l'aviez évoqué plusieurs fois, derrière notamment dans notre ouvrage sur Dessine-moi la gestion de patrimoine. Ce sont des hommes et des femmes derrière, hein, au niveau niveau des back-office. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur cette notion-là. C'est quand même extrêmement important. C'est pas confondre avec la dématérialisation. Déjà, les nouveaux enjeux pour les back-office en assurance vie.
Les nouveaux enjeux, ou plutôt, je dirais, Jean-Charles, une poursuite des transformations, et David l'a très bien manifesté à travers ce que j'ai nommé, moi, une révolution technologique, effectivement, qui a accéléré le temps et qui a rendu encore plus sensible la rapidité et le délai des traitements qui sont demandés par les professionnels. Donc, effectivement, on a cette dématérialisation, cette digitalisation, mais aussi, et ça je peux le noter, c'est aussi et humainement le degré de sensibilité au client qu'un back-office peut avoir, qui est aussi un facteur de qualité. Tout n'est pas dans la technologie, tout n'est pas dans les outillages qui sont à disposition des gestionnaires, mais aussi dans la capacité à leur donner cette sensibilité client et à les rendre encore plus proche de leurs clients. C'est extrêmement vrai dans la gestion de patrimoine où l'interlocution dédiée reste un enjeu fort malgré effectivement une digitalisation et une numérisation. Un centre de relations clients sur des produits d'assurance vie volumétriques n'est pas le centre de relations clients qui doit être mis en place pour une relation de proximité avec notamment des réseaux de CGP. Il faut qu'il y ait une personnalisation, il faut qu'il y ait de l'interlocution dédiée et une capacité de ce même back-office à dépasser ses propres processus. Alors, ça ne veut pas dire ne pas respecter strictement la conformité et la réglementation, mais savoir dépasser le processus pour gagner du temps ou gagner en qualité de service. Donc, il y a plusieurs enjeux qui se croisent. Effectivement, on a une élévation du niveau technologique des plateformes de gestion, d'une part, on a la nécessité, paradoxalement peut-être, de former encore mieux et encore plus nos gestionnaires. Ils doivent devenir des experts capables de répondre là où les outils ne pourront jamais apporter ce niveau de réponse extrêmement personnalisé. Donc ça veut dire une élévation de leurs compétences, de leur expertise, derrière des outils qui prennent en charge de plus en plus de processus. J'ajouterais que, effectivement, le délai du traitement et la rapidité est toujours un critère majeur et mis en avant par les professionnels. Il faut aussi bien mesurer le fait que, d'un élément invisible qu'il était il y a quelques années, le back-office est aujourd'hui un maillon visible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un gestionnaire exécute une opération, elle est immédiatement ou très peu de temps après visible sur les outils, les extranets des professionnels ou des clients. C'est-à-dire que, entre guillemets, je le dis avec ces mots-là, le droit à l'erreur est encore moins possible et le rattrapage est toujours très coûteux en matière de perception de la qualité de service.
D'accord, il y a une certaine porosité finalement. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, entre le front office et le back office, finalement, beaucoup plus visible.
Beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il y a une interaction du temps réel, du 24-24, du 7/7, qui fait que toute opération qui intègre le système d'information qui est effectuée par le professionnel, par le distributeur, entre en temps réel dans les systèmes d'information du back office. Et l'interaction, le délai d'interaction qui est donné au gestionnaire est très court. Il est très court et il doit être juste. Donc, il y a plusieurs enjeux dans le niveau de contrôle des outils et des plateformes et le fait que le gestionnaire doit avoir la compétence et l'expertise requises pour exécuter l'opération. Parce qu'elle sera visible également, quasiment en temps réel. Donc, on a cet enjeu majeur qui peut générer du stress après. Et humainement, on le surveille beaucoup dans les back-office parce que c'est un facteur de stress. C'est une vraie usine de production. C'est une vraie usine de production et un cadencement des lignes de production qui fait qu'il faut que les équipes aient confiance dans les outils qu'elles utilisent, il faut qu'elles aient la compétence et l'expertise, et ça suppose un accompagnement de tous les jours de ces équipes et de leurs managers pour qu'elle soit au rendez-vous du service client. Mais encore une fois, l'alpha et l'oméga, c'est déjà que le back-office ait pleinement conscience qu'il est le centre de relations client, qu'il est le service client de la compagnie.
Et ça veut dire un back-office dédié pour chaque compagnie ou ça peut aller jusqu'à un back-office, par exemple, pour chaque contrat? Parce que quand on parle de sensibilisation aux demandes des clients.
Alors, je l'ai évoqué, hein, c'est plus la nature du produit d'une part et le réseau qui va le distribuer qui va sous-tendre l'organisation qui va être mise en place. Lorsqu'on est sur des réseaux de distribution intermédiaire, des réseaux de CGP, il est essentiel de pouvoir, à mon sens, avoir une interlocution dédiée, nommée. La famille de produits également est un élément important parce que si je veux des experts en matière fiscale, en matière réglementaire, sur telle ou telle nature de produit, et la loi PACTE nous y oblige d'autant plus, avoir des experts du plan d'épargne retraite, qu'ils soient individuels ou collectifs, je vais plutôt construire mes processus et mes organisations par famille de produits, puis ensuite regarder la façon dont il est distribué pour adapter l'organisation qui est mise en place et la labelliser.
J'allais vous repasser la parole, David. Allez-y.
C'est très intéressant, mais je pense qu'effectivement, il y a un niveau de personnalisation qui est nécessaire parce qu'effectivement, on est dans des produits aujourd'hui qui ont des contraintes réglementaires assez fortes avec DDA, avec des obligations d'information sur le client, de profils définis, des options de gestion financière, des options de prévoyance, des différents types de produits où on doit conseiller entre des produits d'épargne retraite ou des produits d'assurance vie. Et en fait, si on peut automatiser au maximum ces éléments, il y a un moment où il y a des choix à faire et c'est vrai que l'enjeu est de pouvoir à la fois automatiser ces opérations et à la fois de pouvoir donner aux conseillers ou aux gestionnaires la possibilité d'arbitrer, de décider de la suite qu'ils donnent à l'opération en fonction des informations dont ils disposent. Et c'est un algorithme qui est assez complexe aujourd'hui et en fait on doit être en mesure de traiter les cas qui sont un peu particuliers au niveau du back-office, rapidement, parce que les délais doivent être toujours respectés. Et donc, c'est un enjeu fort, et j'avoue qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'efforts en la matière qui ont été fournis, et ce n'est pas un exercice facile pour les back-office, mais d'où cette robotisation qu'on voit qui permet d'isoler les cas complexes et de pouvoir les traiter de façon instantanée, mais un peu sur mesure.
Ce que je retiens, c'est qu'il y a une vraie politique de ressources humaines.
Ah oui, je rejoins tout à fait David là-dessus, c'est qu'il faut que le gestionnaire puisse consacrer son temps disponible au cas complexe et ne pas être entre guillemets pollué par tout un ensemble de traitements et d'actes qui peuvent parfaitement rentrer dans un processus extrêmement industrialisé, extrêmement robotisé ou automatisé. Donc ça, c'est essentiel effectivement. Et la politique de ressources humaines au sein d'un back-office, elle est majeure. Moi, ce que j'ai pu constater ces dernières années, et je suis très heureux que David manifeste le fait que la qualité perçue s'est améliorée, parce que ce que j'ai pu en tout cas constater, dans tous les cas que j'ai pu observer, c'est que la qualité voulue a considérablement progressé. C'est-à-dire que les back-office sont réellement aujourd'hui dans cette qualité voulue, avec un volontarisme extrêmement fort de démontrer une qualité de service. Donc, elle commence à se mesurer. Comme le disait David, ce sont parfois des processus un peu longs parce que le déploiement nécessite à la fois de l'investissement technologique, de l'investissement humain. Mais effectivement, une politique de ressources humaines sur un back-office, c'est un élément essentiel. On l'abordera peut-être, la pérennité des effectifs au sein d'un back-office est un élément majeur. La stabilité de ces effectifs, parce que ça veut dire que nous pouvons confortablement investir en matière de formation, d'accompagnement, d'élévation de compétences. Mais ça passe par une stabilité des effectifs. Malheureusement, il y a quelques années, les back-office étaient un sujet majeur de turnover.
Et oui, on n'avait pas en tête ces notions. C'est extrêmement important. Oui, on avait plutôt une vision de service avec un turnover important. C'est vrai.
C'est ça. Et la technologie ne pallie pas tout à fait ce turnover. Justement, pour les cas complexes qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple, et pour le service client personnalisé et dédié que sont en droit d'attendre des professionnels. Donc, la technologie répond à des enjeux effectivement de qualité, de fiabilité des traitements et des opérations. Mais effectivement, l'élément humain et la réduction des turnovers dans les back-office, c'est aussi un point d'attention majeur pour les compagnies d'assurance et les plateformes de gestion.
On voit que ça suit un peu le défi d'intermédiation d'une manière générale en finance et en assurance, c'est-à-dire des conseillers avec beaucoup plus de valeur ajoutée et pour les opérations standards, une robotisation, je ne sais pas si on peut appeler ce mot, beaucoup plus importante. Ça suit l'évolution des filières, on va dire commerciales, des filières de conseil.
Oui.
Ah, d'accord. David, vous avez dit que ça se ressentait un complément par rapport à ce que vient de dire Christophe.
Moi, je pense qu'on a abordé. On peut effectivement dire que c'est pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire, c'est que la simplification des procédures est un enjeu parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on arrive dans des niveaux de complexité trop fortes. Et qu'au regard de l'ensemble de ce contexte, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis aussi pour à la fois répondre à l'ensemble de ces exigences réglementaires, financières, fiscales, et à la fois essayer d'avoir des processus simples pour qu'effectivement il y ait une bonne compréhension des équipes de gestion, parce que on ne pourra pas en faire des moutons à cinq pattes. Donc il est important d'avoir des choses à la fois industrialisées, mais à la fois simplifiées. Et je dois dire que là, c'est un enjeu assez fort parce que le contexte réglementaire n'est pas nécessairement celui qui permet de le faire le plus simplement, on va dire.
Et par rapport à ça, justement, est-ce que la digitalisation, alors vous avez un petit peu commencé à répondre, mais est-ce qu'elle change la nature des back-office?
Oui, elle change la nature des back-office. J'ajouterais quand même qu'on est dans un monde où, au sein d'un même back-office, peuvent coexister plusieurs générations, bien sûr de produits, mais aussi de systèmes d'information. Et ça aussi, c'est un enjeu, c'est-à-dire que la qualité perçue par le client peut différer selon la génération de l'outillage et du back-office qui gère son contrat. On parle beaucoup de digitalisation, de robotisation. Il faut pour cela que la transformation technologique globale de la compagnie ait pu aller à son terme. Et c'est un chemin parfois long et parfois même sans fin, puisque nous avons aujourd'hui beaucoup de contrats, notamment en assurance vie, fermés à la souscription, qui sont dits en run-off, et sur des systèmes d'information anciens qui n'ont pas été décommissionnés et qui ne bénéficient pas de cette révolution technologique ou qui n'en ont que les ricochets. Et donc, l'enjeu du back-office aussi, c'est d'avoir, à travers une gestion par processus, de tenter, quel que soit le contrat et quel que soit le support sur lequel il est géré, d'améliorer globalement la qualité client. Et ça, c'est aussi un enjeu, c'est que le back-office n'est pas un organe vivant, un organisme vivant homogène, mais il est parfois hétérogène entre la gestion d'un produit d'assurance vie classique, génération années 80, et le plan d'épargne retraite individuel, nouvelle mouture sur un lancement d'offres en 2020, où effectivement, là, on a le bénéfice de toute la révolution technologique, de toute la digitalisation des processus.
Est-ce que... J'ai un petit peu de difficulté à percevoir. Est-ce que ça veut dire plus de recrutement dans les back-office ou à l'inverse, une réduction d'effectifs vers des effets avec des personnes plus formées, plus on peut tirer quelques...
Deux éléments, Jean-Charles, dans ce que vous dites. Je dirais mieux de recrutement.
Oui.
Pas plus, mieux de recrutement. Donc, ça veut dire des niveaux de recrutement plus élevés et des compétences, encore une fois, acquises et à transmettre dans le cadre d'une formation continue. Oui, il y aura des réductions d'effectifs dans les back-office dans les années à venir. Évidemment, la robotisation, on parle de digitalisation, la prochaine étape qui est initiée, et qui n'est pas encore vulgarisée, généralisée, c'est évidemment la robotisation des processus, va engendrer des réductions d'effectifs effectivement dans les back-office sur les années à venir. Alors, réduction d'effectifs, dont je dirais qu'elle va se faire relativement naturellement par la pyramide des âges. On ne va pas être dans des plans sociaux, ce n'est pas du tout le propos. Et en revanche, effectivement, comme je le mentionnais en introduction, des expertises et des compétences qui vont s'élever pour traiter, je crois que David l'indiquait, pour traiter les cas complexes, être capable, face à un conseiller, de lui apporter l'élément fiscal, réglementaire, sensible, complexe, et donc d'avoir un niveau de réponse qui suppose effectivement des expertises et des compétences particulières.
Alors, je rejoins Christophe juste pour compléter, oui. c'est très intéressant, en plus Christophe est au cœur de la problématique, hein, puisqu'il a tous ses back-office à gérer, mais c'est vrai qu'il faut voir effectivement l'hétérogénéité des différents contrats d'assurance qui existent, et donc la digitalisation concerne souvent les nouveaux produits ou les produits de masse, donc il y a toujours besoin de gérer un historique, et s'il y a un enjeu effectivement que la robotisation permette de traiter tous les parcours clients, cela prendra un peu de temps et donc il y aura toujours effectivement un besoin de gestion encore manuelle pendant quelques temps. Donc ça, c'est un point majeur qu'il faut avoir dans l'évolution des back-office. Elle va se faire progressivement et non pas, je dirais, d'un seul coup. Ce sont des produits dans lesquels il y a un historique qui est très, très lourd et donc il faut être capable de le gérer dans le temps.
Alors, c'est habituel.
Juste pour compléter, une étude avait été menée par un grand banque assureur que je ne nommerai pas évidemment, qui évoquait le chiffre de 30 à 40% de réduction d'effectifs sur 10 ans dans les activités de gestion et de back-office. Donc c'est un mouvement, les chiffres peuvent paraître très élevés, 30 à 40% sur 10 ans, on n'est pas sur un élément violent. Enfin, voilà, c'est une tendance de fond, mais ce n'est pas une rupture violente. Parce qu'on est sur des cycles longs et qu'on traite une matière et des données qui ont une pérennité, une durée de vie très importante, donc elles ont une résilience.
D'accord. Alors, cette émission touche malheureusement à sa fin, donc je voudrais quand même vous entendre sur un point. Bon, on l'a compris, hein, que les back-office donc évoluaient vers plus de technicité des collaborateurs. On a compris évidemment que les contrats des CGP aussi ont des spécificités. David, est-ce que, par rapport à votre étude, est-ce que les CGP ont exprimé des attentes spécifiques par rapport au back-office pour l'avenir ?
Le point majeur, j'ai sans doute évoqué en préambule, c'est de pouvoir effectivement ajuster leur service en fonction de leurs besoins. Je crois qu'effectivement, ils ont clairement exprimé un besoin de digitalisation, d'avoir des parcours clients les plus fluides et les plus industrialisés possibles, bien entendu. Mais ils ont besoin d'avoir cette réactivité, de pouvoir avoir du contact, de la gestion de cas particuliers lorsqu'ils le demandent, de pouvoir traiter des opérations totalement dématérialisées ou totalement matérialisées en fonction de leur contexte ou de leurs besoins, parce qu'ils ont face à eux des clients qui ont, eux, leurs exigences. Et donc, le classement des back-office tel qu'il est sorti a beaucoup mis en avant cette capacité des back-office à avoir cette souplesse. Donc, je dirais, voilà l'attente majeure, c'est de la souplesse par rapport à ces process. Bien entendu, l'industrialisation, mais de la souplesse.
D'accord. Et de votre côté, Christophe, les assureurs, ils ont des attentes particulières vis-à-vis de vous en tant que gestionnaire.
Oui, bien sûr. Non, je crois qu'effectivement, la conscience qu'il faut absolument avoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est main dans la main par la digitalisation du parcours et du processus. C'est-à-dire que là où on était dans un mode extrêmement séquencé et séquentiel il y a quelques années, le CGP et le gestionnaire sont main dans la main. Et donc, l'un et l'autre doit parfaitement connaître les contraintes que chacun a à gérer dans son métier. Moi, je suis très partisan d'ouvrir l'usine de gestion au CGP pour qu'il en comprenne quelques rouages et que les gestionnaires comprennent les contraintes et les exigences de la distribution. Ça, c'est le premier point. Et quand on parlait de souplesse de processus, bien souvent, on sait relativement bien dessiner le processus qui fonctionne. et on sait le développer, on sait le mettre en musique techniquement et en matière de gestion. Ce que se doit de faire un back-office, c'est aussi de décliner tous les plans B, si je peux me permettre. L'incident, l'anomalie, l'erreur, c'est aussi tout cet aspect de gestion de plan B et de processus que je vais qualifier de secours, parce que je ne trouve pas immédiatement le terme le plus adéquat. Mais il y a le processus qui fonctionne dans 98% des cas, et puis il faut que le gestionnaire, avec ses outils, mais aussi son intelligence et ses compétences, sache dépasser le processus s'il y a un incident, une anomalie, une erreur, et qu'il faut cette réactivité auprès du conseiller pour lui apporter les réponses dont il a besoin.
Merci Christophe. Donc Christophe Emprin, je rappelle que vous êtes à la tête de PAC Solutions, société spécialisée dans la gestion de back-office en assurance. Merci David, associé de Périclès Consulting, société d'études et de conseils. David, on peut le dire, c'est public, le numéro 1 cette année à l'antenne, le numéro 1 cette année au niveau des back-office.
Oui, ça a été Vie Plus sur Avenir.
Ça a été Vie Plus, effectivement, sur Avenir. Merci beaucoup.
L'étude est disponible sur notre site, on pourrait vous l'envoyer aussi si vous voulez la mettre sur votre site. Jean-Charles, il n'y a pas de souci.
Eh ben, ce sera avec plaisir. Et puis, on retient, Christophe, votre invitation pour que les CGP viennent voir comment ça fonctionne. C'est bien ça?
Exactement. Et bienvenue, effectivement.
Suivez-vous sur Facebook.
On viendra aussi, l'endroit est sympathique.
Oui, on viendra aussi, l'endroit est très agréable, c'est en Avignon. Voilà, merci beaucoup messieurs,
merci.
Et vous dis à très bientôt pour d'autres émissions sur la technicité des contrats d'assurance vie.
Merci messieurs, nous sommes ravis de vous avoir entendu avec de belles nouvelles, puisque finalement la qualité voulue du back-office et surtout la qualité perçue par les clients de la qualité du back-office augmente. J'en suis personnellement ravi, c'est une très très bonne nouvelle pour les clients. Merci messieurs, merci et à très bientôt pour une nouvelle Libre Antenne.
La Libre Antenne de l'assurance, un format proposé par Vovox, plateforme de production et de diffusion de contenu assurance, banque, épargne, prévoyance, à écouter et à partager.